Nous allons donc commencer. Rappelez-vous simplement que, à l'introduction de chaque recueil de Halakhot, le Rambam nous explique quels sont les mitzvot qui sont expliqués là-dedans. Combien de mitzvot y a-t-il? 613. Là, ça a été juste. Donc 613 mitzvot. 248 sont des commandements positifs. 365 sont des commandements négatifs, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, au début, le Rambam va nous dire également le nombre des mitzvot qui sont contenus dans la Teshuvah. Alors, on y va. Je lis ici, Ilchot Teshuvah. Vous y êtes? Très bien. Mitzvat ase achat. Ça comporte un commandement positif. Et dans tout ça, ce n'est l'explication que d'une seule mitzvah, un commandement positif. Vehu, qui est? Sheyashuv achote mechet'o lifnei Hashem v'yitvadeh, qui est que le pécheur revienne de son péché devant Dieu et fasse le vidouille, en fait l'aveu. Cette phrase vous semble logique? Il dit, il y a un commandement qui est de faire teshuvah et le vidouille. Il y a quelque chose qui cloche. Un n'est pas égal à deux. Ça veut donc dire que un des deux éléments de la phrase n'est pas la mitzvah. Alors, quel est l'élément de la phrase qui est la mitzvah? Est-ce que c'est de faire teshuva ou de faire le vidouille? Comment le savoir? Ou bien le vidouille? Comment régler ce problème? Avec une devinette? Non, il y a une solution très simple. Pour savoir quelque chose qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Le lire. Voilà, donc nous allons lire. Je vais vous dire quelque chose? Uveur mitzvazo viikarim anigrarim ima biglala nifrakim elu. L'explication de cette mitzvah et des principes qui sont attachés, c'est dans ces chapitres-là, Perek Rishon, chapitre premier. Alors nous allons voir, je lis ici d'abord très extensivement, après on rentrera dans le détail. Kol mitzvot sheba Torah, tous les commandements de la Torah. Est-ce que vous, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui ne parle pas l'hébreu ici, qui ne comprend pas l'hébreu? Du tout? Du tout, du tout. Alors, comment tu fais avec ce livre? C'est très courageux. Bon. Kol mitzvot sheba Torah, tous les commandements de la Torah. C'est qu'il y a nul pan au Machon Meir. D'accord. Bon. Ben asé, ben lota asé. Que ce soit un commandement positif ou un commandement négatif. Im avar Adam alachat mehen ben bezadon ben bishgaga. Si un homme a transgressé un de ses commandements volontairement ou involontairement. Kesheyase teshuva veyashuv michet'o, lorsqu'il fera teshuva et qu'il reviendra de son péché, chayav lehitvadot lifnei ha'el baruchu. Il doit l'avouer devant Dieu, béni soit-il, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ish o Isha ki yaasu mikol chatata Adam vegomer, un homme ou une femme qui aurait fait un des péchés de l'homme, etc. Veidvadu et chatatam asher asu, ils devront avouer le péché qu'ils ont fait. Ze vidouy devarim, c'est un aveu par la parole, yarvdu harim. Ou vidouise mitzvat asé, et ce vidouille, cet aveu, est un commandement positif. Est-ce que nous avons une réponse à la question de tout à l'heure? Oui, alors c'est quoi la mitzvah? Merci, le vidouille. Ce monsieur m'a sauvé de la déshydratation. Bon, donc... Est-ce que d'après le Rambam, il y a une mitzvah de faire teshuvah? Non. La mitzvah, c'est que quand on fait teshuvah, il faut faire le vidouille. Mais il n'y a pas dans la liste des 613 commandements, le commandement de faire teshuvah. C'est bien clair? Oui, quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut définir comme étant le vidouille? Quelle est la définition du vidouille? Comment le savoir? Non, mais je sais pas. Est-ce que vidouille, ça veut dire faire une danse? On n'a expliqué ni l'un ni l'autre. On n'a pas expliqué ce que c'est que la teshuva, on n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est que le vidouille. Pour l'instant, j'en suis à un problème, c'est de savoir, est-ce que la mitzvah, c'est la teshuva ou le vidouille? Nous avons trouvé une réponse, géniale. La réponse, c'est que c'est le vidouille qui est la mitzvah. D'accord? Maintenant, tu poses une nouvelle question, c'est quoi le vidouille? Comment le savoir? Comment répondre à ta question? Il faut lire la suite, n'est-ce pas? Dans la suite, le Rambam va nous expliquer qu'est-ce que c'est que le vidouille. Oui. J'en sais rien. Pour faire teshuva. Non, je sais pas. Est-ce que la teshuva peut se faire sans vidouille? Ou est-ce que le vidouille peut se faire sans teshuva?
Ben, à qui pour on peut faire vidouille pour.
Mais est-ce qu'on a fait teshuva avant ou pas? Si je fais le vidouille sans faire teshuva, ça marche ou pas? Ben justement, on n'a pas encore expliqué. Le vidouille, c'est l'aveu. C'est-à-dire, j'avoue ma faute. D'accord? Non, le tachanoun, c'est autre chose. Le tachanoun, c'est une supplique, c'est-à-dire on vient demander à Kadosh Baruch Hu de répondre à nos prières, etc. Ça, c'est ça le tachanoun. Ça n'a rien à voir avec le vidouille. Le vidouille, c'est quand on dit par la parole, j'ai fait telle et telle chose. D'accord? C'est ça le vidouille. Comment est-ce que je sais? Parce que moi, j'ai lu la suite. Donc j'anticipe et donc je vous donne gratuitement la définition du vidouille. Est-ce que là c'est clair? Quoi encore? Ah d'accord. My pleasure. Bon, et donc, pour l'instant j'en suis à un petit problème tout à fait restreint. C'est le vidouille qui est la mitzvah, pas la teshuva qui est la mitzvah. D'accord? C'est-à-dire, faire teshuva, d'après en tout cas ce qui ressort de Maïmonide, c'est qu'il faut c'est-à-dire regretter sa faute et décider de ne plus la faire. D'accord? C'est ça, la teshuva. Et le vidouille, c'est l'avouer par la parole. Maintenant, donc, je pense que c'est très clair, n'est-ce pas? Pour le Rambam, il y a la mitzvah du vidouille, pas de la teshuva. Qui n'est pas d'accord avec le Rambam? Ben, vous pouvez pas savoir. Celui qui n'est pas d'accord, c'est le Ramban, Nachmanide. Rambam, c'est Rabbi Moshe ben Maimon. Ramban, c'est Rabbi Moshe ben Nachman. D'accord? Le Ramban, lui, n'est pas d'accord avec le Rambam. Il dit qu'il y a un commandement positif de faire teshuva. C'est-à-dire que pour le Ramban, quand on fait teshuva, on doit faire deux commandements. L'un, la teshuva, le deuxième, le vidou. C'est ce que dit le Ramban. Maintenant, j'aimerais savoir qui des deux a raison. Comment est-ce qu'on peut avoir les deux raisons? L'un, il te dit, ça c'est chaud, l'autre, il dit, c'est froid. La vérité, c'est que c'est chaud et froid. Ça marche pas. Hein? Ah, d'accord. Là, je commence à accepter. Disons comme ça, je pense que c'est le Rambam qui a raison. Mais après, je vous expliquerai pourquoi c'est le Ramban qui a raison. D'accord? On va commencer par le Rambam. Le Rambam a raison. Je vais vous dire tout simplement, pour le Rambam, il est absolument illogique, absurde, de dire qu'il y a un commandement de faire teshuva. Pourquoi? Parce que la teshuva est implicite dans la notion même de mitzvah. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai une mitzvah qui est, prenons une mitzvah au passage, l'étude de la Torah. D'accord? Il y a une mitzvah d'étudier la Torah ou pas? Oui. Vous êtes d'accord? Il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Bon, alors, je n'étudie pas la Torah, je refuse d'étudier la Torah, je transgresse un commandement positif, un des commandements de la Torah qui est d'étudier la Torah. Maintenant, je me dis, quelqu'un vient me voir et me dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a un commandement? Oui, c'est vrai. Tu l'as transgressé? Oui. Alors pourquoi tu ne répares pas? Pourquoi tu n'hésites pas à partir de maintenant? Ah, parce que je n'ai pas entendu dire qu'il y a une mitzvah de faire teshuva. Ridicule. Si j'ai un commandement de faire une certaine chose, si je ne le fais pas, je dois arrêter de transgresser, c'est évident. Je dois également regretter de l'avoir fait, et je dois également prendre sur moi de ne plus refaire la transgression. Donc, la teshuva, elle est implicite dans l'idée même de mitzvah. C'est-à-dire, si je dis qu'il y a un commandement de faire teshuva, c'est ridicule. Ce serait comme, par exemple, quelqu'un qui dirait on a besoin. Pourquoi tu ne respires pas? Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de respirer. C'est ridicule. La respiration, c'est inné. D'accord? Maintenant, une fois que je respire, alors il y a des commandements qui en découlent. Donc, si je suis mort, par exemple, il y a d'autres choses. Mais si je suis vivant, il y a des mitzvot qui sont la conséquence du fait que je respire. D'accord? Ou bien, est-ce que j'ai un commandement dans la Torah de manger? Est-ce qu'il y a un commandement de manger? Non. Il y a un commandement de faire le Birkat Amazon, par exemple. D'accord? Quoi manger? Mais, quoi ne pas manger? Mais manger en soi n'est pas un commandement de la Torah. Ça fait partie des données naturelles de l'homme. Donc, faire teshuva pour le Rambam, c'est une évidence telle que ça n'a pas besoin d'être une mitzvah. Par contre, le vidouille, l'aveu par la parole, ça, s'il n'y avait pas la Torah, je ne le saurais pas. Donc, c'est un commandement de la Torah de faire le vidouille. Jusque-là, vous avez compris, le Rambam a raison? Je vous ai convaincu? Bon, et bien maintenant, nous allons passer au Rabban. Nous allons prouver que c'est lui qui a raison. D'accord? Ça devient de plus en plus difficile pour votre interro, mais enfin, ça, bon. Le Rambam dira, s'il pouvait rencontrer Maïmonide, qu'il n'a jamais rencontré, il lui dirait, notre maître, tu as raison. C'est vrai que, logiquement, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait une mitzvah de faire teshuvah. Mais moi, je les connais, les juifs. Si c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut faire teshuvah, ils feront pas. Donc, la Torah a instauré une mitzvah particulière qui est de faire teshuvah. On peut dire qu'en fait, le débat est très profond. Est-ce que la Torah est écrite pour les intelligents ou pour les idiots? Pour le Rambam, la Torah est écrite pour les intelligents. Donc, ce qui tombe sous le sens, la Torah n'en fera pas une mitzvah. Le Rambam dit non, la Torah est écrite pour les idiots. Donc, il faut veiller à leur donner des mitzvot qui correspondent à leur état. Y a-t-il des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent? Parce que je vais compliquer les choses de plus en plus. Oui. Non? C'est clair? Non, parce que, je veux dire, ma méthode dans mes cours, c'est que je dis des choses simples au départ, et après ça devient de plus en plus compliqué. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas clair au début du cours, il n'y a aucune chance que la suite du cours clarifie la chose. D'accord? Donc il faut toujours poser des questions au début. Ou voir, Sia. Non, la manière dont elle est écrite. Non, la Torah est faite pour tout le monde, mais pour qui est, comment est-elle écrite? Elle est écrite en fonction de qui? De l'intelligent ou de l'imbécile? Le rachok, c'est celui qui a transgressé. C'est pas l'idiot. C'est pas l'idiot. Non. D'accord? Bon. Oui?
Bien sûr, mais je sais pas si ça gère un peu pour les gens intelligents, mais j'ai entendu une phrase qui disait que la Bible, c'était le livre le plus mal lu du monde.
Ça, c'est vrai.
Donc, si c'est le livre le plus mal lu du monde, c'est que c'est le moins compris.
Oui, mais attention. La Torah est écrite en fonction d'une certaine identité qui reçoit la Torah. L'identité en question, c'est les enfants d'Israël. Maintenant, savoir qui sont les enfants d'Israël, c'est est-ce que le fait que je suis né juif fait que je corresponds dans mon identité à celui pour qui la Torah est écrite? Ça, c'est un autre problème. Mais ça, on résoudra ce problème seulement après Sukkot. C'est-à-dire dans le plan d'étude, après Sukkot, on étudiera ça aussi. D'accord? Alors, il faut de la patience. On peut continuer? Bon. Et donc, en fait, il y a ici tout un débat entre le Rambam et le Rambam. Je pense que vous avez compris la nature. Bon. Maintenant, je voudrais vous amener une autre controverse entre le Rambam et le Rambam. Vous voulez? Oui. Une autre sur une autre mitzvah. La question est la suivante. Y a-t-il un commandement dans la Torah, de fonder un État juif en Eretz Israël? Très bien. Le Rambam ne dit pas qu'il y a un commandement de ce genre, et le Rambam dit que oui. C'est-à-dire dans la liste des 613 commandements de la Torah, d'après le Rambam, il y a un commandement positif de s'emparer d'Eretz Israël et d'y fonder une souveraineté juive. Le Rambam ne l'a pas écrit. Alors, c'est tout un débat dans la littérature rabbinique, pourquoi il n'a pas écrit. Mais si on va selon la logique de ce qu'on dit là, c'est la même chose. Pour le Rambam, il est inimaginable qu'il y ait une occasion de restaurer la souveraineté juive en Eretz Israël et qu'on ne le fasse pas. Salut. Au revoir. Et, ouais. Et pour le Ramban, hein? D'accord, bah, cachez-vous. Et pour le Ramban, il dira, oui, il y a des juifs, si on ne l'écrit pas dans le Shulchan Aruch, qui a une mitzvah de faire l'état d'Israël, ils ne le feront pas. D'accord? Vous voyez qu'il y a ici, donc, à nouveau, le même problème qui se traduit dans une autre mitzvah. Donc, quand Ben Gurion a fondé l'État d'Israël, d'après le Ramban, il aurait dû faire une bénédiction. Asher kitchanu bemitzotav et tzivanu lehakim medina. N'est-ce pas? Il n'a pas fait la bénédiction. Pourquoi? Peut-être qu'il pensait comme le Rambam, ou qu'il disait safek brachot lehakel. C'est aussi parce qu'il n'était pas religieux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Mais enfin, peu importe. La mitzvah a été faite. D'accord? Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons l'État d'Israël. Quelque chose a changé dans l'histoire. Donc, vous avez ici déjà combien de controverses entre le Rambam et le Ramban? C'est ça que ça a l'air. En vérité, c'est une seule. Je vais vous dire pourquoi. Où est-ce qu'il est question dans la Torah de faire teshuva? Hein? Il n'y a pas écrit là-bas qu'il faut faire teshuva. Non? Dans la paracha de Nitzavim, au 30e chapitre de Devarim. D'accord? Ça s'appelle la parashat HaTeshuvah. Il y a tout un texte là-bas où la Torah nous dit, en long et en large, qu'il faut faire teshuvah, qu'à la fin de l'histoire, on fera Teshuvah. C'est écrit. Où est-ce qu'il est écrit dans la Torah qu'on reviendra un jour en Eretz Israël? Dans le même chapitre. Et c'est employé avec les mêmes formes de phrases et les mêmes verbes, les mêmes formules. Pourquoi? Parce que veut dire le mot Teshuvah? Ça vient de quelle racine? Revenir, d'accord? Le retour. Et donc, il y a plusieurs manières de faire teshuvah. Si, par exemple, moi, j'ai transgressé un commandement de la Torah et que je reviens, je fais ma teshuvah personnelle. Si ma faute, c'est l'exil et que je reviens à ma terre, c'est une teshuvah collective. Donc, en fait, c'est les deux controverses du Rambam et du Ramban sont sur le même sujet. Vous avez compris ce que je dis là? C'est-à-dire qu'en fait, si je cherche quel est le plus grand mouvement de Teshuvah de l'histoire? Le sionisme chiloni. D'accord? C'est-à-dire le fait que le peuple d'Israël soit revenu à sa terre, c'est un grand mouvement de Teshuvah, et il y a parfois un Teshuvah individuel. Je ne faisais pas Shabbat, je fais Shabbat. Oui? Ah oui, bien sûr, ils n'en sont pas conscients du tout, mais ça n'a aucune importance.
Est-ce que c'est valable s'ils sont pas conscients?
Valable de quel point de vue?
Valable.
C'est Akadosh Baruch Hu, vous lui demandez. Mais en tout cas, dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu, il y a écrit, je crois, qu'un jour on viendra, etc. D'ailleurs, dans le même texte, il est dit, une fois que tu seras revenu, tu feras les mitzvot. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu ne les faisais pas. Ça, c'est vrai, ils ne font pas de kavana, c'est vrai. Ah bon, pourquoi? Qui t'a dit ça? Oui, mais ça, c'est au niveau du mitzvah individuel, au niveau du collectif, ça n'a rien à voir. Donc vous avez compris que nous sommes en train aujourd'hui de vivre une époque extraordinaire, celle d'une teshuvah collective. D'accord? Tout ça, c'est simplement au passage, dans le premier cours que vous avez de moi au Machon Meir, déjà vous tombez sur du sionisme échevelé. Bon, en tout cas, c'est ça dont parle ici le Rambam. Est-ce que jusqu'à maintenant vous avez compris? Y a-t-il des questions? Vous savez pourquoi c'est important de savoir si vous avez des questions? Parce que ça va devenir de plus en plus dur, de plus en plus compliqué. Enfin, bon. Alors, maintenant je voudrais poser une question plus grave. La teshuvah, qu'est-ce qui m'amène à faire teshuvah? Pourquoi je fais teshuvah? D'abord, je reviens à quoi exactement? Faire tes choix, c'est revenir en hébreu, la chouve, n'est-ce pas? Mais je reviens à quoi? Donc, à l'accomplissement des mitzvot? C'est ça que ça veut dire? Et quand c'est individuel? À l'accomplissement des mitzvot? Vous êtes d'accord avec ce jeune homme? Comment tu t'appelles? Ethan, d'accord avec Ethan? Oui. Donc on revient à soi-même. Oui. Ah, donc il revient à un bon comportement. À un bon comportement. Oui. Qu'est-ce que tu dis, toi? Le retour vers soi-même, oui. Oui. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que tout ce que vous dites est faux. C'est-à-dire, c'est, en tout cas, c'est pas ce que dit la Torah. Comment savoir ce que dit la Torah? Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir ce que dit la Torah? Il faut lire la Torah. Donc, nous allons lire la Torah. Comme d'habitude, ce dont on a besoin n'est pas là. Ah oui, ça, alors, voilà. C'est dans le livre de Devarim. Quand la Torah parle de la Teshuvah, enfin, pour savoir ce qu'elle dit, il faut lire la Torah. Nous passons donc au chapitre Lamed de Devarim. Dans le verset Bet. Veshavta, et tu reviendras, ad Hashem Elohecha, jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Veshamata Bekolo, tu entendras sa voix. Kechol Asher Anochi Metzavecha Hayom, comme tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Ça veut dire à quoi je reviens? À Dieu. Je reviens à Dieu. Une fois que je reviens à Dieu, je l'entends. Une fois que je l'entends, j'accomplis les mitzvot. Donc, faire teshuvah, ce n'est pas revenir à l'accomplissement des mitzvot. L'accomplissement des mitzvot est la conséquence de la teshuvah. Mais d'abord, je fais teshuvah, comme je fais teshuvah, après j'accomplis les mitzvot. Oui? D'accord. Oui, c'est implicite que je reviens à Dieu. Oui, mais il fallait le dire. C'est important. C'est-à-dire que pour la Torah, ce n'est pas, disons, le retour à l'accomplissement technique qui est la Teshuvah. C'est un retour de l'identité. Je reviens à mon Créateur. Comme je reviens à mon Créateur, je ne peux pas me présenter devant lui sans faire les mitzvot. C'est pas faisable. C'est pas présentable. Donc je fais les mitzvot. D'accord? Mais ça commence par ce qu'on appelle une soif métaphysique. C'est comment on appelle comme ça en français, je crois, n'est-ce pas? Vous parlez français, n'est-ce pas? Donc, ça s'appelle une soif métaphysique, hein, une sorte de languissement comme ça. Je reviens à mon Créateur. Maintenant, pour avoir la soif de revenir à Dieu, est-ce que j'ai besoin de faire un péché pour ça? Non, ça peut être tout à fait naturel. On pourrait dire à la limite que pour les pécheurs, c'est plus difficile de faire teshuva, tandis que pour le tzaddik, celui qui n'a pas péché, il y a une intuition naturelle qui le ramène au Créateur. Comment? Vas-y, vas-y. Oui? 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 Oui, peut-être. Mais est-ce qu'il est, s'il ne connaît pas le mal, ça veut dire qu'il est saint d'esprit. Saint avec ou sans T d'ailleurs. D'accord? Il est saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T, d'esprit. C'est ça? Je vais vous expliquer un peu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est terrible. Oui, je t'excuse, oui. Quoi?
Est-ce que ça veut dire qu'on est tout le temps en
c'est, on va y arriver. D'abord, je veux répondre à ce jeune homme. Comment tu t'appelles? Noé. Alors, j'ai à dire Ethan et Noé. Vous voyez, dans la liste, ça commence à rentrer. Bon. Vous connaissez le premier verset de la Torah? Bara Elohim. Dieu a créé le monde. N'est-ce pas? Et ça veut dire quoi, créer? Il a fait une terre. Que veut dire créer? C'est-à-dire donner la place à un autre. D'accord? Pour comprendre vraiment un mot en hébreu, il faut connaître également l'araméen. L'araméen, c'est, pour des raisons que je ne vous explique pas maintenant, c'est le subconscient de l'hébreu. C'est l'inconscient de l'hébreu. Vous savez ce que veut dire bara en araméen? Hein? J'ai rien compris. Bara, ça veut dire dehors. D'ailleurs, c'est ce que dit également le mot exister, ex, ist, en dehors, être. D'accord? Ceux qui, parmi vous, parlent l'arabe, quelqu'un qui parle l'arabe ici? Personne. Vous avez entendu déjà un peu d'arabe populaire? Bra, que veut dire? Ça veut dire quoi, bra? Dehors. D'accord? Comme oust. D'accord? Donc, bara, ça veut dire être mis en dehors. Le fait d'être créé, c'est être déjà en dehors. En dehors de quoi? Maintenant, si je suis en dehors de quelque chose, de quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me fait? Quel désir ça crée en moi de revenir? Donc, le fait même d'être conscient d'être créé, crée chez moi un élan de teshuva, de retour. Est-ce que j'ai besoin de péché pour ça? Pas forcément. On pourrait dire même que c'est celui qui a péché a oublié qu'il a un créateur. Donc pour lui, faire teshuva est pratiquement impossible. On pourrait donc dire que l'innovation de la Torah, c'est que même ceux qui ont péché, eux aussi peuvent faire teshuva. Mais la teshuva serait un mouvement permanent de l'être. Comme tu as bien dit tout à l'heure, on fait donc tout le temps teshuva. Il y a toujours un appel de notre âme, en tout cas, qui aspire à revenir au Créateur. Même si on est tenté par le mal. Parce que quand on est tenté par le mal, ça veut dire qu'on est aussi tenté par le bien. Est-ce que là, ça va? Oui?
Si je comprends bien, le Rambam a raison en parlant de ceux qui n'ont jamais été entre guillemets, et du coup, qui ont une envie naturelle de revenir. Et le Rambam a raison dans le sens où il parle pour ceux qui ont du côté, du coup, qui ont logiquement oublié l'existence de Dieu, et du coup, il faut leur rappeler qu'il y a un Dieu.
Oui? Tout à fait d'accord. Simplement, le fait que tu as raison me pose un problème. Parce que dans ce cas-là, je ne comprends pas le Rambam. Si c'est vrai ce que je dis là, la teshuva n'a rien à voir avec le péché a priori. N'est-ce pas? Or, si on dit ici dans le Rambam, qu'est-ce qu'il nous dit? Lisons à nouveau le texte. Kol mitzvot sheba Torah ben ase ben lo ta'ase, tous les commandements de la Torah, qu'ils soient positifs ou négatifs, im avar adam alachat mehen, si un homme a transgressé l'un de ses commandements, ben bezadon ben vishgaga, volontairement ou involontairement, kesh yaseh teshuva v'yashov micheto, lorsqu'il fait teshuva et revient de son péché, chayav litvadot lifnei el baruch hu, il doit avouer sa faute devant Dieu. Alors là, pour le Rambam, le contexte de la teshuva, c'est le péché. Oui. Ah, très bien. Mais a priori, si on lit ça superficiellement, on a le sentiment que le Rambam, pour lui, la teshuva, c'est comme un médicament. Si on est malade, on prend un médicament. Si on n'est pas malade, on ne prend pas. Alors, si j'ai péché, je fais teshuva. Sinon, non. Comment tu dis? Ah, très bien, très bien. C'est-à-dire que j'ai réussi à introduire dans le texte ce que je voulais dire. Mais il faut, il y a ici tout un, il y a un livre entier du Rav Kook. Vous avez entendu parler du Rav Kook? Il a écrit un livre qui s'appelle Orot à Teshuva, les lumières de la Teshuva. Livre très important, dans lequel il revient souvent sur cette idée-là, justement, que la Teshuva est un mouvement permanent, non seulement de l'être humain, mais de tout être, la création tout entière étant dans un mouvement de Teshuva permanent. Et ce qui est surprenant, c'est que le Rambam ne dit pas ce que dit le Rav Kook, enfin, n'a pas jugé nécessaire de rappeler ce que dit le Rav Kook. Alors, il y a deux réponses possibles. Soit parce qu'il était avant le Rav Kook, mais c'est une mauvaise réponse. Parce que si ce que le Rav Kook dit est vrai, c'était vrai même du temps du Rambam. Soit, effectivement, il le dit. Et effectivement, si on lit à nouveau, plus lentement, le texte, comme tu l'as si bien fait, il y a écrit comme ça, « Kesheya ase teshuva, veyashuv micheto » lorsqu'il fera teshuva et reviendra de sa faute. Donc, reviendra de sa faute, c'est par rapport au péché. Mais il fera quand il fera teshuva, c'est supposé être un mouvement naturel. C'est-à-dire que dans deux mots, le Rambam a écrit tout le livre de Orot à Teshuva du Rav Kook. C'est le génie du Rambam, il est capable de mettre tout ça.
Non.
Exactement. C'est-à-dire que la teshuva est possible même pour les pécheurs. D'accord? Mais en fait, c'est un mouvement naturel de l'être qui fait que on est, disons, naturellement attiré vers sa source. Il y a des moments dans l'année où c'est plus facile. Par exemple, au début de l'automne. Le début de l'automne, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est le moment où il y a dans la nature un retour. N'est-ce pas? Il y a les feuilles mortes de l'automne. C'est le moment où donc l'emprise dans le Olam Hazeh, dans notre monde, est moins forte. Et donc, il y a un mouvement naturel de nostalgie métaphysique. D'accord? C'est pour ça qu'il est facile de faire teshuva dans cette période. Vous avez compris? Bon. Continuons. Donc, pour l'instant, on a vu deux éléments. Nous avons vu la controverse entre le Rambam et le Ramban à propos de la Teshuvah. Deuxième élément que nous avons vu, c'est que la Teshuvah est un mouvement naturel de l'être. N'est-ce pas? Et puis maintenant, nous allons passer à la troisième partie. Mais avant ça, une petite question. Est-ce que c'est pas dangereux de faire Teshuvah? C'est-à-dire, si la Teshuvah, c'est le retour à la source, c'est un suicide. On revient à son origine, on disparaît. C'est comme chez les mystiques, le nirvana bouddhiste, etc. Vous n'avez pas peur de la teshuva? Vous avez compris ma question? Hein? Tu n'as pas compris? Ah, très bien. La question est la suivante. Si la teshuva, c'est revenir à Dieu, donc on fait dire la teshuva ultime, c'est mourir. Oui, c'est être englouti dans son origine. D'accord? C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, les éducateurs ont peur de ceux qui font teshuvah. Ils se disent, oh là là, ça va pas là, il est en train de nous quitter. Les parents sont inquiets. Depuis que mon fils a fait teshuvah, il est livide, il fait plus rien. D'accord? Vous comprenez? Il y a effectivement une inquiétude de la teshuvah. Et la réponse, c'est que dans la Torah, vous avez deux mouvements. Revenir et revenir. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire de l'échelle de Yaakov dans son rêve? Il voit des anges qui montent sur une échelle, et qu'est-ce qu'ils font après? Ils redescendent. D'accord? C'est-à-dire que faire teshuva, c'est la moitié du trajet. On revient à son origine pour se ressourcer. Une fois qu'on s'est ressourcé, qu'on s'est purifié, on revient sur terre pour sanctifier la vie. Vous savez ce qu'on fait à la sortie de Kippour? On mange. Il y a un repas. Il y a un repas de sortie de Kippour. C'est pas simplement on mange parce qu'on a fini de jeûner, mais il y a un repas de fête. C'est-à-dire que le but du jeûne de Kippour, c'est le repas d'après le jeûne. C'est-à-dire, si on a vraiment fait une teshuvah, on est capable donc d'appréhender le monde profane et de le sanctifier. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a ici un double mouvement. On monte pour redescendre. Important de le comprendre. Parce que la période que nous vivons actuellement, qui commence au début du mois d'Eloul et qui s'achève à Kippour, c'est une période ascensionnelle. On monte. Et après, à travers Soukhot, à travers la vie du reste de l'année, on rentre dans la vie. Quoi? Oui. Oui. Non, alors justement, si on va uniquement dans le sens de l'ascension, alors ça veut dire la disparition du monde. D'accord? Mais nous savons que il y a le monde tel qu'il devient. Ça s'appelle Olam Haba. D'accord? C'est-à-dire que le monde se transforme pour devenir un monde habitable. D'accord? Tel que nous connaissons le monde actuellement, ça a l'air pas, c'est pas très beau. D'accord? Mais, étant donné qu'il y a un créateur, donc il y a un optimisme fondamental. Oui. Il faut étudier pour ça. Donc, on continue? On continue. Alors, dans j'étais aussi à la troisième ligne. Hayav lehit vadot lifne ha'el baruchu. Il doit avouer sa faute devant Dieu, béni soit-il. C'est la phrase la plus ridicule a priori que j'ai pu jamais voir. C'est-à-dire, quand je fais teshuva, je dois aller voir le bon Dieu et lui dire, tu sais, je voulais te raconter quelque chose. J'ai péché. Réponse de Dieu, je le savais très bien, j'ai pas besoin que tu me le dises. C'est-à-dire, là, si déjà je dois avouer ma faute, la dernière personne, entre guillemets, à laquelle je devrais m'adresser, c'est au Créateur. Lui, il sait tout. Oui.
Non, parce que lui, ça m'a pas surtout un bien
psychologique. Donc, je devrais l'avouer à qui ?
C'est comme si...
À moi-même. Ou bien à mon psychologue. D'accord ? Ou chez les chrétiens, ils vont chez le curé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui ne le sait pas et je vais lui dire. Ou bien, je dois peut-être prendre conscience avec moi-même. Mais, Akadosh Baruch Hu, il sait. Et alors, c'est devant lui qu'il faut aller avouer sa faute. Quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Vous avez compris ma question ? Vous voyez que chaque bout de phrase ne pose que des problèmes. D'accord ? J'ai connu un des grands maîtres d'Israël, le Rav Avraham Shapira. Quand il voyait quelqu'un étudier la Guémara, il disait « Est-ce que tu as des questions ?» Et l'élève répondait parfois « Non, tout est clair. » Alors, réponse du Rav Shapira, c'est que tu n'as rien compris. D'accord ? Mais on voit, c'est très simple. Il faut simplement lire et se dire « Mais est-ce que ça tient la route ?» Ça tient pas la route. Je dois aller voir Dieu, lui dire que j'ai péché. Vous voulez une réponse ? Je vais vous la donner. Oui ? Comment ? Il peut le dire à d'autres. Pourquoi pas? Oui, je peux le dire à lui-même. Il peut aussi ne pas le dire. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de le dire à Dieu alors que lui est au courant? C'est-à-dire, Dieu dira, oui, mais je le savais. C'est... Comment j'ai rien compris? Le proviseur, d'accord? Va dans le bureau du directeur et raconte-lui ce que tu as fait. D'accord? Effectivement, le directeur est sur comment tu as fait ça, d'accord? Mais là, il s'agit de celui qui sait tout. S'il sait tout, j'ai pas besoin de lui dire. Si j'ai fait teshuva, il suffit que je fasse teshuva, que j'ai regretté ma faute, que j'ai accepté de plus la faire. Pourquoi est-ce que j'ai besoin encore de cette cérémonie ridicule, quoi, dans laquelle je... Oui? Est-ce que j'ai... Comment... Pour savoir que j'ai fauté, je peux me l'écrire dans mon carnet, hein. Vous voulez une réponse ou pas? Parce que moi aussi j'ai le droit d'intervenir ici, d'accord? Oui. La réponse est très simple. Quand on fait un péché, ça fait deux dégâts. Il y a deux dégâts qui sont inhérents au péché. Le premier, c'est ce que le péché lui-même fait. Tout péché a des conséquences négatives. Deuxièmement, ça coupe les relations entre moi et Dieu. Et donc, quand je fais teshuva, je répare mon péché. Et je dois également réparer le deuxième problème. C'est-à-dire que le fait de pouvoir dire le vidouille devant Dieu, l'ifne ha'el, ça veut dire que je répare maintenant. Je répare la coupure des relations, je rétablis les relations. Vous avez compris que le vidouille, en fait, à la limite, c'est une récompense. Tu as fait teshuva, donc tu as le droit de faire le vidouille. Tu as le droit de t'adresser à celui dont tu as transgressé son ordre. Oui. Bon. Évidemment. Parce qu'il y a Keshia Teshuva. Lorsqu'on fait Teshuva, Veya Shomireto, et qu'on est revenu de sa faute, alors il faut faire le vidouille. Non, c'est exactement le contraire. Hein? Est-ce que ce cours était donné par moi?
Non.
Non. C'est la preuve. Évidemment. Mais essayons de voir ce que dit le Rambam. Dire, celui qui a donné le cours hier, je ne sais pas qui c'est, en tout cas, certainement a lu le Rambam. Oui. Or, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Quand on a fait teshuva, il faut faire vidouille. Conclusion, le vidouille vient après la teshuva. D'accord? Évident. C'est-à-dire, imagine par exemple que je fasse le vidouille, mais que je n'ai pas fait teshuva. Je dis, voilà, j'ai fait telle et telle chose, d'ailleurs j'ai l'intention de continuer. Pas une teshuva. D'accord? J'ai cambriolé hier une banque. Et d'ailleurs demain aussi. D'accord? Chez Nehema, ainsi qu'il est dit. Isho isha ki asu mikol chatot ha'adam, un homme ou une femme qui ferait un des péchés des hommes, ve'idvadu et chatatam asher asu, ils devront avouer la faute qu'ils ont fait, ze vidui devarim, c'est un aveu par la parole. Le mot davar, en hébreu moderne, ça veut dire une chose. Mais en hébreu biblique, ça veut dire une parole. Dibour. Dibour, davar, c'est la même chose. D'accord? Donc, il faut avouer par la parole, vidouille ze mitzvat asse, et ce vidouille-là est un commandement positif. Je voudrais poser une question. Pourquoi est-ce que le vidouille se fait par la parole? Si déjà je m'adresse au bon Dieu, je lui dis voilà, j'ai fait ça et ça. Pourquoi la pensée ne suffirait pas? Pourquoi est-ce que ça doit passer par ma bouche? La question est bonne? Est-ce que la question est bonne? Oui, bon, maintenant la réponse.
Oui. Le sens de... Ça n'a pas de sens justement de dire pardon dans la tête.
Pourquoi? Si celui, le Créateur, lui, connaît mes pensées, oui. On a peur de parler, oui. Alors, ça demande plus d'efforts, c'est ça? Ben, c'est le cas de beaucoup d'élèves au Machon Mir, je sais, dans les cours, ils ont très peur de moi. Oui. Alors qu'à à plus forte raison, quand il s'agit de Dieu. C'est vrai, c'est-à-dire que je veux approfondir ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'il y a, dans le vidouille, également, le fait de fixer, c'est-à-dire de faire un passage vers la fixation. Parce que j'ai beaucoup de pensées, je pense des tas de choses. Mais qu'est-ce que je pense vraiment? C'est quand je le dis que ça tranche. D'accord? C'est-à-dire cet effort que ça me demande, effectivement, va fixer la direction de ma pensée. Oui?
Nous devons aussi dire et faire.
Ouais. Ça veut dire, de même que Dieu parle, nous aussi.
Exactement.
Oui, c'est vrai. Mais Dieu, il fait tomber la pluie aussi.
Hein.
Oui. Mais je veux aller un peu plus loin. Celui qui fait teshuva, c'est l'homme. C'est quoi un homme? Hein? Oui, mais alors les pommes de terre aussi. Or, les pommes de terre ne font pas teshuva. Ni même le vidouille. Qui sait penser? Très bonne définition, c'est la définition des Grecs. C'est-à-dire, les Grecs voient dans l'homme l'être pensant. C'est Aristote qui le dit, n'est-ce pas? Et chez les Grecs, quand on fait les degrés de la création, alors il y a d'abord le minéral, au-dessus de ça le végétal, l'animal, et l'homme en tant qu'animal pensant. D'accord? Chez les rabbins, on dit que l'homme, c'est l'être qui parle. Pourquoi cette divergence entre les philosophes et les rabbins? Pour les philosophes, plus une chose... Comment? C'est vrai. Non, il n'y a pas de parole sans pensée. Non, mais je vais aller plus loin. Pour les philosophes, plus une chose est abstraite, plus elle est élevée. C'est-à-dire... Le terrain, c'est grossier, c'est physique. Et puis la plante, elle commence déjà à monter, et puis l'animal, il bouge, et puis l'homme, il pense. D'accord? Donc plus une chose est abstraite, plus elle est élevée. Chez les Juifs, ce qu'on recherche, c'est pas ce qui est élevé, mais ce qui fait l'unité. Or, dans la parole, c'est là qu'il y a une rencontre entre la pensée et l'acte. Pour parler, il faut avoir une pensée. Il n'y a pas de parole sans pensée. Mais pour parler, il faut avoir un corps. Donc la jonction entre la pensée et le corps, c'est la parole. C'est pour ça que chez les rabbins, l'homme est appelé celui qui parle, medaber. Et donc si je fais teshuva, je dois dans toute la totalité de mon être faire teshuva. Ça passe donc par la parole. Donc nous avons trouvé une réponse à la question que j'ai posée. Pourquoi est-ce qu'il faut que le vidouille passe par la bouche? Parce que c'est là que s'exprime l'ensemble de l'homme. On peut continuer? Bon, ça fait au moins 6 questions déjà dans l'interro. Mais je vous dis tout de suite, je renonce à l'interrogation si je vois que vous étiez attentif. Donc vous avez des chances de vous en sortir. Bon. Keitsad mitvadin. Comment est-ce qu'on fait l'aveu, le vidouille? Omer, on doit dire Anna Hashem, de grâce, Dieu. Hatati, j'ai péché. Aviti, j'ai péché. Pashati, j'ai péché. Lefanecha, devant toi. Ve'asidi karvechach, et j'ai fait telle et telle chose. Ve'are, et maintenant. Nihamti, je regrette. Vavoshti ve'ma'asai, j'ai honte de mon action. Ul olam eini choser ledavarze, je ne reviendrai jamais à cette chose-là. Vezehu ikaro shel vidouille, c'est ça l'essentiel du vidouille. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai traduit, vous avez remarqué qu'il y avait trois termes qui ont été traduits tous par le même verbe. J'ai péché, et j'ai péché, et j'ai péché. En hébreu, hatati, aviti, pashati. Que veut dire le mot hatati? J'ai péché par inadvertance, par négligence. Aviti, j'ai péché volontairement. Pashati, j'ai péché par esprit de révolte. Alors, c'est pas la même chose. Donc, pour chaque péché sur lequel je veux faire le vidouille, il faut examiner. Est-ce que c'était un het, un avon ou un pécha? Est-ce que c'était quelque chose de négligent, de volontaire ou de révolté? Et enfin, selon cela, je devrais faire mon vidouille. Donc, pourquoi avoir ici trois termes dans le même vidouille? Il suffirait donc de voir pour un, dans quelle catégorie mon péché s'introduit, et c'est ça que je devrais dire. À nouveau problème. Voilà. Si par exemple, disons, voilà, il y a des péchés qui sont un péché économique. J'ai volé. Et un autre péché qui est, j'ai mangé un saucisson pas cachère. C'est pas la même chose. D'accord? Donc, l'un, c'est une transgression des lois envers son prochain. Là, c'est une transgression des lois envers la cacheroute. Donc, on devrait me dire, pour chaque péché, une autre formule. D'accord? Maintenant, il y a également une autre manière de diviser les péchés. Ceux qui sont faits involontairement, volontairement ou en révolte. Donc, il faut voir, si je dois faire teshuva pour un péché, il faut voir dans quel état d'esprit je l'ai fait. Et donc, je ne devrais pas, le fait de dire les trois formules à la fois, c'est ça qui me semble superflu. Si c'était simplement par inadvertance, je devrais dire seulement khatati. Si j'ai fait volontairement, je devrais seulement aviti. Et si c'était par révolte, je devrais seulement pashati. Or, ce que dit ici le Rambam, c'est que dans chaque vidouille, je dois dire les trois termes. Ça a l'air en trop. C'est lourd, quoi. Vous voulez une réponse? Je vous les donne gratuitement, hein, vous savez, les réponses. La réponse, c'est que dans toutes sortes de péchés, il y a les deux autres. C'est-à-dire, quand je fais un péché, par exemple, involontairement, par négligence, c'est un peu prémédité aussi, parce que pourquoi est-ce que je me suis permis d'être négligent? Donc il y a aussi un peu de avon. Il y a également un peu de révolte, c'est dans le subconscient, et inversement. Ça veut dire qu'en fait, dans tout péché, il y a toutes les sortes, mais il y a ce qu'on appelle la dominante. Parfois c'est plus ret, parfois c'est plus avon, parfois c'est plus pécha. Et dans ce cas-là, il faut recouvrir toutes les possibilités. Donc le Rambam dit, il faut amener les trois. D'accord? Bon. Et il suffit pas seulement de dire, mais il faut également déclarer, regretter de l'avoir fait, et décider de ne plus le faire. C'est-à-dire, il y a trois temps dans la teshuva, le présent, le passé, l'avenir. D'accord? Dans le présent, j'avoue ma faute, je regrette le passé et j'accepte l'avenir. Enfin, je décide pour l'avenir. C'est ça, faire teshuva. C'est les trois éléments, passé, présent et avenir. On continue? On a encore 3 minutes. Allez, allons-y. וכל המרבה להתוודות, הוא מעריך בעניין זה, הרי זה משובח. Tout celui qui abonde et qui s'allonge sur cette chose-là, c'est louable. C'est-à-dire, si je fais un vidouille long, je répète mon vidouille, c'est encore mieux. Ça, c'est l'opinion de Rambam. C'est contraire à l'opinion de... Non. On est tombé dans le piège. L'opinion des kabbalistes, le Hari, Rabbi Yitzhak Luria, le plus grand des kabbalistes au XVIe siècle, dit qu'il n'est pas bon de refaire le vidouille. Dans chaque prière, il faut en faire un seul. C'est-à-dire à Kippour, par exemple, dans chaque prière, on fait un vidouille. Pour la Chazara aussi, ça fait il y a 10 vidouilles dans tout Kippour, pas plus. D'après le Rambam et les anciens Marzorim, vous verrez, il y a beaucoup de vidouillim. Et les kabbalistes ont supprimé tout ça. Que dit le Hari? Pourquoi il ne faut pas beaucoup faire le vidouille? Parce que ça serait, j'espère qu'il n'y a pas des personnes trop sensibles ici, parce que sinon on pouvait sortir, c'est comme un chien qui mange son vomi. Vous avez déjà vu un chien vomir? Non, d'accord? Ici, un chien vomit, parfois il mange ce qu'il a vomi. J'apprends chez le Hari deux choses très importantes. D'abord, que le vidouille est une forme de vomissement. Pourquoi est-ce qu'on vomit? Pour se libérer d'un aliment nocif, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mon système digestif ne peut pas supporter tel aliment, donc il s'en débarrasse. C'est très bien. Donc, faire le vidouille, ça ressemble à ça. Je prends conscience du mal et je m'en dégage. Donc, comment? Ah, c'est ça. Donc, il faut pas refaire le vidouille. Parce que quand je vomis quelque chose, là, je vais rentrer un peu dans les détails, ça passe par ma gorge. Donc, je goûte à nouveau de l'aliment. Donc, quand je fais le vidouille, d'une certaine manière, je reviens au moment du péché. Donc, je le goûte. C'est indispensable. Il faut pas exagérer. Il faut pas, disons, s'enfoncer dans le souvenir de la faute. Au moment de la teshuva, il faut, au moment du vidouille, précisément, il faut effectivement en prendre conscience, mais une fois que c'est dégagé, c'est dégagé. Pour le Rambam, non. Le Rambam nous dira, même si on s'est déjà dégagé, mais il en reste toujours quelque chose. C'est-à-dire, il faut passer maintenant à la javel. D'accord? Donc, il faut refaire le vidouille. D'accord? Vous avez donc ici deux opinions différentes. Voilà, c'est tout pour ce matin. Shalom. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Dans chaque prière, une seule fois. Ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.